Bonjour à tous, je suis Alice Vacher, je vous souhaite la bienvenue dans l'Empreinte. L'Empreinte, c'est un podcast unique qui s'intéresse à la révolution du sens. Moi, mon sujet de prédilection, c'est l'empreinte que peuvent laisser des entreprises sur notre planète. Chaque semaine, des PDG de grands groupes, des start-upers ou encore des responsables RSE répondent à mes questions pour essayer de comprendre ensemble comment les entreprises agissent aujourd'hui pour notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Emery Jacquia, le CEO de la Camif. Salut Emery, je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte.
Bonjour Alice.
Bon, on a eu quelques essais, on va vous dire avant, parce qu'on est, à distance et c'était un petit peu compliqué la connexion, mais on parlait de télétravail juste avant et tu m'expliquais la mise en place progressive du télétravail pour la Camif.
Ouais, enfin, la question que tu me posais, c'est est-ce que le contact humain ne me manquait pas?
Oui, aussi tout ça. La base, c'était d'abord le contact humain, puisqu'on a eu nos échanges avant, et est-ce que ça te manquait, le contact humain et tout?
Et je disais que, effectivement, paradoxalement, alors que ça fait 12 semaines qu'on se voit beaucoup moins les uns les autres, que j'avais malgré tout l'impression que le nombre d'interactions avec mon équipe, mais aussi avec mes proches, ma famille, avait jamais été à un niveau aussi important et aussi élevé, et que du coup, quelque part, ça renforce presque la proximité qu'on a les uns avec les autres, au point qu'on envisage nous-mêmes à la Camif, on a mobilisé un petit groupe de travail de volontaires là-dessus, d'installer durablement le télétravail comme le mode de travail principal, en fait.
Et pour, où est le siège initialement de la Camif?
Il est à Niort, on est basé à Niort. Alors après, là, dès le confinement, chacun s'est mis en place au télétravail. J'ai d'ailleurs été frappé de la rapidité avec laquelle chacun a adopté tous ces nouveaux outils de visio, etc. Je crois que ça a été assez incroyable. Et du coup, à Niort, mais avec des gens qui habitent, pour certains, à La Rochelle, qui peuvent faire une heure pour venir au bureau et une heure pour repartir. Donc, il y a évidemment un attrait très fort de qualité de vie, de gain de temps et aussi de plus d'efficacité dans nos réunions, parce que elles démarrent à l'heure, elles n'ont pas le choix, elles sont obligées de démarrer à l'heure, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est sur zone, sur site.
C'est vrai.
Et puis forcément, c'est plus structuré, c'est plus préparé, c'est plus fluide, on arrive à échanger les écrans, à partager les écrans de manière beaucoup plus instantanée que si on était tous dans une même salle. Et même des ateliers créatifs qu'on a pu mener, puisque j'ai, en plus de ma casquette de président de la Camif, je dirige aussi la communauté des entreprises à mission, qui est une association qu'on a co-créée avec les pionniers de l'entreprise à mission il y a 2 ans maintenant. Et on est dans un processus là de co-création de notre raison d'être. Et on a fait des ateliers créatifs, objectivement à distance, qui je ne croyais pas que ça allait marcher, et ça a fonctionné vraiment très bien. Donc je suis assez impressionné en fait de l'impact plutôt positif en fait de cette période sur. Voilà, on prend conscience que c'est important d'avoir du lien humain, c'est important d'avoir des échanges fréquents, et puis après, il y aura aussi besoin de se voir, de se rencontrer, parce qu'il y a rien de remplace malgré tout la rencontre physique, mais probablement on n'ira plus au bureau pour les mêmes raisons. Donc ça nous invite aussi à repenser nos modes de collaboration au bureau en présentiel, et donc l'organisation des espaces. On est dans un grand open space, même si on a plein d'espaces autour, au pourtour de l'open space pour faire des échanges de manière assez informelle, des canapés, etc. En fait, si les gens viennent au bureau aujourd'hui, c'est pour se rencontrer, c'est pour travailler ensemble, donc c'est plus l'open space, quoi. C'est de nouveaux espaces qu'il faut réinventer. C'est assez passionnant parce qu'on vit une période qui accélère probablement des mutations qui étaient déjà à l'œuvre avant, ou qui étaient des signaux faibles avant, qui deviennent aujourd'hui une sorte d'évidence.
Ou même peut-être qui ralentissent aussi notre façon de procéder, et finalement qui privilégie certaines tâches à d'autres et qui remettent aussi au cœur l'humain et la qualité de l'échange, peut-être moins la quantité mais la qualité. Je sais pas ce que tu en penses, et que le contact humain sera peut-être un contact un peu plus privilégié maintenant.
Oui, c'est clair, l'humain est vraiment remis au centre de tout ça, mais bon, il aurait jamais dû être ailleurs qu'au centre, à vrai dire.
C'est vrai.
Nous, on avait fait une expérience qui était une très belle expérience il y a 10 ans, au moment de la reprise de la Camif, ou pour recréer du lien entre les collaborateurs, entre des anciens de la CAMIF qui connaissaient pas ceux de Mattelsub qui avaient fraîchement débarqué à Niort pour reprendre pour se lancer dans cette aventure. Bien, on a fait une expérience qui était très belle. On a accueilli pendant 3 mois dans l'entreprise une artiste en résidence, qui s'appelle Anne-Laure Maison, qui en plus travaille sur la thématique de la maison, donc c'était prédestiné à travailler avec nous.
Au cœur du sujet.
Ouais, ça, et on lui a donné carte blanche. Donc, elle était installée au milieu du magasin CAMIF où on s'était tous réinstallés, et elle produisait tous les jours des œuvres, c'était chouette. Et un jour, une des œuvres, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est que, en nous observant travailler, elle nous voyait travailler sur nos ordinateurs, nous envoyer des emails à longueur de journée, alors qu'on était tous à 10, 15 mètres les uns des autres, et elle a eu l'idée géniale, dès qu'elle voyait quelqu'un qui faisait l'effort de se lever et d'aller parler à quelqu'un d'autre, de matérialiser ça au sol en scotchant une bande rose pour relier les deux bureaux. Et progressivement, toute l'entreprise s'est tissée au sol de toutes ces bandes roses qui nous ont rappelé, et puis elles sont restées pendant 5 ans au sol de l'entreprise, chaque jour, l'importance du lien, du vrai échange, de l'effort, de la relation. Voilà. Et pour moi, c'est un sujet central, ça, aujourd'hui, parce que l'entreprise est ce projet collectif au service d'une mission, hein, puisque nous, on a engagé l'entreprise à mission. Donc, c'est un projet collectif qui doit faire sens. Mais pour engager le collectif, il y a besoin de créer du lien. Et plus l'entreprise crée du lien entre ses collaborateurs, avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec son territoire, plus elle est résiliente. Et on le voit aujourd'hui à travers cette crise du Covid, on vit, c'est que les entreprises qui ont le lien le plus fort avec leur écosystème sont celles qui s'en sortent le mieux. Parce qu'elles peuvent mobiliser des clients, elles peuvent mobiliser des fournisseurs, elles peuvent demander aux uns et aux autres de faire des efforts pour que le projet puisse traverser cette crise. Et moi, je crois que c'est une valeur immatérielle qui est extrêmement forte et qui est malheureusement aujourd'hui traduite dans aucun bilan financier. Les financiers continuent à regarder juste le résultat financier, alors qu'en fait, il y a une valeur et un actif immatériel incroyable, c'est la qualité du lien que l'entreprise a su tisser avec ses avec toutes ses parties prenantes.
Tu me parlais de la reprise de la CAMIF, donc j'ai envie de remonter un peu sur ton parcours et sur le déroulé de toutes ces étapes, parce que ça a l'air passionnant. Avant de reprendre la CAMIF, qu'est-ce que tu as fait et d'ailleurs, même tes études, si tu veux m'en parler, est-ce que tu as toujours été un convaincu de ces enjeux ou finalement c'est venu avec le temps? Voilà, raconte-moi tout.
Non, moi, j'ai fait un chemin qui est un chemin d'entrepreneur. Moi, j'ai démarré, j'ai créé ma première entreprise, Mattelsub, à 24 ans. On a été les premiers en 95.
T'étais jeune. Ah oui, 24 ans. Oh là là. Ah oui, donc toi, t'es l'entrepreneur dans l'âme.
Hein. Et j'ai pas d'autre expérience que ma propre entreprise. Et c'est ça qui est chouette, d'ailleurs, je pense. Alors, c'est une force, c'est une faiblesse au début parce qu'on a très peu d'expérience, on fait beaucoup d'erreurs, mais on apprend très vite.
On apprend de ses erreurs, hein, tu sais.
Et du coup, ça m'a toujours donné une grande liberté parce que je n'ai pas eu à appliquer de modèle que j'avais pu voir ailleurs. J'avais pas d'expérience. Donc, j'ai dû créer, inventer mon modèle d'organisation, mon modèle de développement, mon modèle d'interaction avec mes parties prenantes. Et du coup, forcément, il ressemble à ce que je suis. Enfin, je pense qu'il ressemble un peu à ce que je suis. Heureusement, il y a une empreinte, hein, pour reprendre.
Voilà. Tu arrives parfaitement à caler le nom de...
C'est ça. Et donc, heureusement que le chef d'entreprise laisse une empreinte et crée une empreinte qui lui est propre et singulière et qui marque la culture de l'entreprise. Et j'ai également, du coup, beaucoup fait confiance à mon intuition dans mon développement parce que j'avais pas de modèle à donc, faire confiance à son intuition, développer son propre chemin, c'est ce qui m'a mis progressivement sur la voie. Et quand il y a 11 ans, la CAMIF a connu les difficultés et a connu sa crise majeure parce que la CAMIF, c'était une entreprise créée en 47 par des instituteurs. C'était une coopérative, la coopérative des adhérents aux mutuelles des instituteurs de France. C'est ça que ça voulait dire, la CAMIF, hein, qui s'était regroupée en 47 pour se rééquiper, donc avec des valeurs de solidarité pour aider ceux qui avaient tout perdu pendant la guerre à se rééquiper. S'est développé sur un modèle de vente par correspondance avec le gros catalogue que beaucoup d'entre nous ont connu et qui a connu des heures de gloire et puis des difficultés avec l'arrivée d'Internet qui a bousculé le modèle avec sans doute des erreurs stratégiques aussi qui ont précipité et qui ont conduit la CAMIF à fermer ses portes en 2008. Moi, au tribunal de commerce, j'ai été une semaine après son dépôt de bilan, j'ai été à Niort. Et j'étais convaincu que, d'abord, je connaissais la Camif depuis 95, parce que ça a toujours été un concurrent que j'admirais, parce qu'il y avait une fidélité et un attachement des clients assez incroyable à cette marque, à cette enseigne. Et j'étais convaincu qu'une grande marque, surtout quand elle a des valeurs fortes, bah, ça meurt jamais, ça reste dans la tête des gens pendant des années. Donc, convaincu qu'il y avait aussi une place sur Internet pour faire un modèle alternatif à ce qu'on peut trouver dans la grande distribution avec une carte sur la proximité, le local, le développement durable qui faisait partie, moi, de mes aspirations. Et puis avec Mattelstom, on faisait 100% de notre chiffre d'affaires avec des fabricants français. On ressentait aussi de la part de nos propres fabricants de la détresse, parce que quand il y a une entreprise, un gros client qui fait faillite, bah c'est difficile pour les fabricants. C'était le cas à l'époque. Et du coup, j'étais un peu poussé en disant, pourquoi toi, Ibri, qui connais bien l'Internet, qui connais bien le sujet de l'équipement de la maison, tu pourrais pas te lancer dans cette aventure dingue de relancer la Camif, parce que ça pourrait nous aider, nous, à repartir aussi. Voilà. Et en fait, j'ai mis cinq mois dans les discussions avec le tribunal de commerce pour convaincre, pour rassurer, j'ai compris tout de suite que la seule façon d'y arriver, d'arriver à rendre le projet possible, c'était de mettre au cœur du modèle un modèle d'impact positif. Pour le territoire d'abord à Niort, parce que Niort avait perdu 500 emplois avec la chute de la Camif, il fallait donc recréer des emplois à Niort. Donc nous, on a bâti un projet où on a installé un centre de relations clients à Niort, on a installé ensuite un centre logistique, on est venu, on a déménagé, moi j'ai déménagé ma famille, mais aussi mon entreprise jusqu'à Niort.
J'ai déménagé ma famille.
Alors mon fils était très content, parce qu'il pensait qu'on partait à New York, mais non, on partait à New York.
Ah oui, il n'avait pas compris que c'est…
voilà, ma femme, on a fait un bon week-end à l'île de Ré, ensuite on a fait La Rochelle et ensuite…
Ah oui, c'était pas mal quand même.
Mais je remercie toujours ma femme, parce que c'est quand même grâce à son soutien que l'entrepreneur que je suis a traversé toutes ces épreuves et toutes ces difficultés. Et voilà.
Ta femme, d'ailleurs, est-ce que c'est pas indiscret, est-ce qu'elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est engagée avec toi?
Oui, depuis la relance, depuis l'aventure Camif, elle a rejoint l'entreprise et du coup, elle travaille ensemble.
Et là, vous télétravaillez ensemble, du coup, pendant le
temps. Et là, on télétravaille ensemble, on a chacun notre bureau, heureusement, parce que ce serait compliqué, mais...
Ah oui, tu m'étonnes. Donc, tu vois, tu es confiné avec une collègue presque.
C'est ça, je suis confiné avec une collègue, elle est dans la salle à manger et moi, je suis dans le salon de télé. Voilà.
Non, mais donc, c'est génial. Et toi, tu as donc aussi, puisque tu étais quand même, je dirais pas précurseur, mais tu dois voir l'essor des engagements des entreprises ou au moins du développement et encore plus ou moins de la dynamique actuelle concernant la RSE des engagements. Donc, tu dois voir aussi un essor de la demande, non?
Ben, je crois qu'il y a, si tu veux, une prise de conscience collective, que ce soit des citoyens qui sont également consommateurs, qui sont également collaborateurs, mais aussi…
Qui sont devenus même consomme-acteurs.
Qui sont acteurs et qui deviennent acteurs de leur consommation de plus en plus. Et je pense que la crise qu'on traverse accélère ce phénomène-là, où on se rend compte qu'on est arrivé au bout d'un modèle, qui a atteint ses limites. Et qu'il faut impérativement repenser notre économie pour qu'elle soit plus locale, qu'elle soit plus inclusive, qu'elle soit moins inégalitaire, qu'elle soit plus durable, plus soutenable, moins gourmande en ressources, plus circulaire. Enfin voilà, je pense que tout le monde a pris conscience de ça. Le Covid a sans doute accéléré cette prise de conscience et amplifié cette prise de conscience. Maintenant, il faut vraiment passer à l'acte. Et je crois. Ce que j'observe, c'est que oui, la RSE, elle a toujours existé, etc. Mais au-delà de la RSE, déjà avant le Covid, la question du sens de l'entreprise et de réaligner l'entreprise et le sens de l'entreprise sur des enjeux de société semblait déjà bien prégnante pour la société de manière générale, mais aussi dans le milieu économique chez les dirigeants. Ils ont compris que demain, le levier de la performance économique, ça sera… Dans une certaine mesure, en quoi l'entreprise est vraiment utile pour la société, à quoi elle contribue au bien commun, sur quels enjeux sociaux, sur quels enjeux environnementaux elle est engagée. Et c'est ces entreprises-là qui seront les plus performantes, parce que c'est ces entreprises-là qui attireront le mieux les clients, qui auront des clients les plus fidèles, qui attireront le mieux les talents, qui auront des collaborateurs les plus fidèles, Et ça, ça se traduit directement dans de l'innovation, de la performance économique. Et donc, oui, il y a déjà un lien entre impact social et environnemental et performance économique. Et ça va s'accélérer. Et tant mieux, et c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'on fait face, au-delà de cette crise ponctuelle du Covid, aux plus grands enjeux que l'humanité n'a jamais traversé. C'est un enjeu de survie pour l'humanité même, avec les sujets des dérèglements climatiques, avec le sujet de la biodiversité, avec le sujet des inégalités. Parce que si on continue comme on a travaillé au XXe siècle, on va dans le mur collectivement. Aucune démocratie ne tiendra le choc. Aucune entreprise n'aura un modèle économique quand on aura 4 degrés de plus sur la planète. Donc, il faut qu'on arrive à engager une transformation. Et là, je pense que le rôle de l'entrepreneur, des entrepreneurs, il est fondamental. Aujourd'hui, on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de chefs d'entreprise qui soient courageux et qui prennent décision d'engager en profondeur la transformation de leur propre modèle d'entreprise. C'est ce qu'on voit à travers la communauté des entreprises à mission, qui est donc cette association qu'on a créée il y a 2 ans. Parce qu'on sent bien ce mouvement-là qui est en train de naître et qu'on a aujourd'hui en France un cadre juridique avec la loi Pacte qui a sorti donc le statut de la société à mission, enfin la qualité de société à mission, donc qui s'est dotée d'une raison d'être, qui a traduit cette raison d'être en engagement, qui évalue sa performance au regard de ses engagements, qui fait évoluer la gouvernance aussi pour intégrer les parties prenantes dans la gouvernance avec les comités de mission. Voilà. Et ça, ce cadre-là, il est très structurant pour des entrepreneurs ou des dirigeants qui ont envie de transformer en profondeur leur modèle. Et il y a une attente qui est très forte. Et moi, je crois que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Il y a une étude, moi, qui me marque beaucoup, c'est celle de Carbon 4. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Jean-Marc Jancovici sur ce sujet-là. Et quand on voit que tous les Français, à titre individuel, faisaient les meilleurs éco-gestes possibles, c'est-à-dire on arrête de prendre l'avion, comme on le fait en ce moment, on mange beaucoup moins de viande, on se déplace plus ou beaucoup moins, comme on le fait en ce moment, en fait, on n'aurait fait que 25% du chemin pour limiter, pour rester dans la trajectoire des deux degrés. Ça veut dire que les 75% du chemin, ils sont à faire par les entreprises, par aussi les territoires, les collectivités, mais par les entreprises. Donc, il y a une énorme part de responsabilité aujourd'hui sur les dirigeants, parce qu'on ne pourra pas dire à nos enfants et à nos petits-enfants qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait. Et on sait que le meilleur levier de transformation qu'on ait à disposition, c'est l'entreprise. Donc, il faut engager en profondeur cette transformation de l'entreprise. Nous, c'est ce qu'on a fait à la CAMIF il y a 10 ans. Hein, on a mis ce modèle d'impact au cœur du modèle de la CAMIF en privilégiant une offre de produits dans l'équipement de la maison, hein, dans notre secteur, mais une offre de produits de qualité qui sont durables avec des fabricants locaux. On fait 73% de notre chiffre d'affaires avec une centaine de fabricants français. On donne le pouvoir aux consommateurs de choisir sur des critères très simple, mais des critères géographiques par pays, par région, par département. Donc, si on cherche une table, un lit, une chaise, un canapé, ben, on peut voir où sont fabriqués les produits et choisir en fonction de ce critère-là, mais aussi sur des critères sociaux, sur des critères environnementaux avec une grande transparence. C'est une des premières innovations qu'on a lancées sur le site de la CAMIF quand on a relancé, c'est de donner le pouvoir aux consommateurs de choisir sur ces critères, mais avec de la transparence sur le lieu de fabrication, sur le nombre d'emplois qu'on soutient. On peut visiter l'usine avec des vidéos reportages au cœur des usines pour comprendre quelle est la démarche engagée par l'entreprise, parce que c'est ça que aujourd'hui le niveau d'exigence il est là. Les consommateurs veulent tout savoir et on va jusqu'à afficher la transparence de l'origine des principaux composants, combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. Et cette révolution là qu'on vit, on est tous acteurs de ça, les citoyens, les collaborateurs dans les entreprises, les consommateurs. Ça, c'est la même personne. On est tous acteurs de ça, mais on a besoin d'accélérer cette transformation, ces changements de modèle. Et moi, ce qui me rend optimiste, c'est que après ces 12 semaines presque de confinement, on a vécu une expérience collective qui est unique dans l'histoire de l'humanité aussi, qui est une expérience de probablement une des plus grandes expériences de déconsommation qu'on ait jamais vécue. Et en fait, on se rend compte qu'on vit finalement pas si mal que ça.
Oui, mais il faut quand même faire attention à l'économie. Faut que l'économie remarche.
En fait, c'est ça la clé. C'est qu'il faut comprendre que demain, c'est pas la croissance à tout prix qu'il faut chercher. C'est un nouveau modèle qu'il faut trouver.
Bien sûr. Relocaliser la production, encourager le Made in France, bien sûr.
Et ce nouveau modèle, il est basé sur quoi? Il est basé sur réarbitrer, parce que souvent, on me pose la question, bah oui, mais vous êtes bien gentil, mais consommer moins, c'est l'économie qui va en prendre un coup, ou alors, bah oui, mais c'est bien gentil, la Camif, vous faites du fabriqué en France, du Made in France, mais c'est plus cher. Donc, comment on fait? On fait des arbitrages, c'est ce que font nos clients. Nos clients à la Camif, on a 450 000 clients ou 500 000 clients bientôt là. On n'a pas de clients qui ont plus de moyens que les autres. Ils sont des clients qui ont des niveaux de vie tout à fait représentatifs des Français. Mais ils ont beaucoup plus d'attention quand ils achètent un produit. Ils se posent davantage de questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ils achètent pas forcément le dernier smartphone à la mode. Ils consomment moins. Ils achètent plus d'occasions. Et ça libère énormément de pouvoir d'achat pour pouvoir, quand on veut se payer un bon lit pour bien dormir ou une jolie table pour inviter ses amis, bah mettre le prix, mais du coup aussi mettre l'attention à est-ce que quand je vais acheter ce produit-là, il va contribuer à l'économie locale? Est-ce que je vais soutenir des emplois en France? Est-ce que je vais faire moins de kilomètres au produit et donc je vais participer à réduire l'empreinte carbone de mon achat? C'est ces questions-là qu'il faut qu'on pose. Et donc, il y a un réarbitrage, il y a une réallocation de nos budgets à titre personnel, parce qu'on est tous acteurs de ça, pour changer l'économie.
Génial. Mais tu sais, enfin, la promesse même et l'essence même de la Camif, c'est réinventer une maison plus durable et plus locale. Or, on a été confinés. Donc, est-ce que... C'est aussi une question. Toi, tu as vu ce besoin du français, et même, enfin, maintenant c'est même international, hein, de réaménager son bien-être intérieur.
C'est drôle que tu me poses cette question, parce que notre signature, c'est « Changeons le monde de l'intérieur ».
C'est fou. Ouais, tu vois.
Elle n'a jamais été aussi vrai. Et c'est quand on s'est retrouvé tous trois filles, on dit bah, « c'est, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire ».
Mais c'est ça.
C'est ça. Et oui, en fait, on a beaucoup plus pris de temps, et on le voit chacun chez soi. On a fait le tri, on a fait le ménage.
Alors, j'ai pas encore fait tout ça. Moi, j'attendais le déconfinement pour vraiment tout faire.
Ah, moi, j'ai fait énormément. J'ai fait beaucoup de ménage, j'ai fait beaucoup de tri, j'ai beaucoup de rangement. Et du coup, je me suis aussi équipé sur des produits que j'avais pas. On fait beaucoup plus de choses soi-même. Donc on passe plus de temps. Moi, j'ai aménagé mon balcon avec du petit mobilier de jardin sur le balcon. Du coup, j'ai réinvesti de l'espace à l'intérieur.
Ouais.
La façon dont j'ai réinvesti, c'est que j'ai moins de choses, mais moins d'objets, moins. Mais c'est mieux. Je me sens mieux. Et les choses que j'ai chez moi, je les ai choisies. Je suis content et fier d'avoir choisi ces produits-là plutôt que des produits qu'on fait trois fois le tour de la planète avant d'arriver chez moi. Donc, il y a un enjeu d'attention qu'on a retrouvé à l'intérieur de nos habitations. En repensant la façon dont on équipe ou dont on habite, dont on vit à l'intérieur de nos logements, de nos maisons, de nos appartements, on peut changer le monde. Ça qui est chouette.
Surtout qu'on dit souvent que son intérieur, c'est le reflet de son âme. Et que parfois, quand on a des grosses remises en question, il faut un petit peu tout revoir chez soi. Ouais. Je fais la minute psy, mais c'est vrai que j'en ai entendu parler plusieurs fois. Et peut-être que, est-ce que d'ailleurs, tu as pu déjà le constater, une demande accrue comme ça en produits plus responsables plutôt que d'aller chercher juste chez... Sans citer la grosse concurrence, mais du IKEA sans âme pour se meubler, je ne sais pas. Est-ce que tu as vu un essor de la demande?
Ça, c'est clair que depuis, en dehors des deux premières semaines du confinement où tout le monde était un peu en mode panique et organisation, mais une fois passé ces deux premières semaines, on a une croissance très soutenue, hein, une croissance à trois chiffres sur les produits locaux, sur les produits durables et globalement donc sur toute l'activité Camif, parce que c'est ça notre cœur de modèle. Donc on sent que là il y a vraiment une aspiration des Français pour relocaliser leurs achats, qui font plus attention à ce qu'ils achètent, qui font plus attention à l'impact, à la façon dont le produit est fabriqué, à ce qu'il y a dedans, à l'impact environnemental. Donc c'est des bonnes nouvelles ça, parce que j'espère que c'est durable. Je le crois volontiers parce que je pense que ça arrive aussi à un moment où on n'a jamais autant partagé l'information sur les désordres dans le monde, sur les problèmes climatiques et sur les problèmes de biodiversité. Donc, je pense qu'on ne peut plus dire qu'on n'est pas au courant. Et donc, je ressens qu'il y a une croissance assez forte sur ce...
Une croissance positive.
Donc, la clé, de toute façon, elle est là. Hein, c'est consommer plus responsable et produire plus local et plus responsable. C'est ça, la clé.
Bien sûr, ce sera qu'un cercle vertueux. Et quels sont tes prochains challenges, toi, du coup soit à titre personnel, soit à titre professionnel, soit les deux même, tu peux tout me dire.
Notre challenge là, c'est de gérer la croissance, parce qu'elle est très forte, donc dans de bonnes conditions opérationnelles. Et là, le challenge, ça va être pour, dans les prochains mois, accompagner aussi nos fabricants dans cette période difficile qui est la relance, la réouverture des usines, qui n'est pas simple. Donc, on a bâti un plan de solidarité et de relance pour les fabricants français. Avec cette mesure pour les accompagner. Alors, c'est des mesures simples, hein, mais de quoi ont besoin nos fabricants aujourd'hui? Ils ont besoin de commandes. Et donc ça, il faut qu'on tous, on contribue à faire plus attention à ce qu'on achète et acheter plus français. Se meubler ou acheter français, ça c'est une bonne chose déjà. Et ils ont besoin d'être bien payés. Et donc, nous, on a par exemple avancé de toutes nos échéances fournisseurs. On avance de 10 jours le paiement à nos fabricants français. On a aussi envoyé des bons d'achat à tous les salariés, les ouvriers des fabricants français avec qui on travaille, parce que on se dit qu'il faut aussi reconnaître. C'est, je pense, une des choses clés qui m'a ressorti pendant cette crise, c'est qu'on a vu que la société elle fonctionnait aussi parce qu'il y avait des gens qui faisaient que ça fonctionne. Donc les chevilles ouvrières du Made in France, les caissières, les manutentionnaires, les logisticiens, les ouvriers. Et ils sont clés pour faire fonctionner notre économie. Donc, il faut aussi savoir reconnaître ça. Donc, on a envoyé un bon d'achat de 50 euros à tous les salariés des fabricants français avec qui on travaille. Ça représente 6000 personnes. Et l'idée, c'est de leur permettre à eux aussi de se payer du Made in France, parce qu'on sait aussi que c'est parfois plus cher d'acheter de la qualité et d'acheter des produits fabriqués français. Ça serait quand même un comble que les fabricants, les gens qui sont dans les usines aujourd'hui en France ne soient pas capables de se payer eux-mêmes du Made in France. Donc voilà, il y a un enjeu là-dessus. Ça rejoint aussi un sujet sur lequel on fait un plaidoyer depuis 4 ans sur la TVA responsable, parce qu'on pense qu'il faudrait qu'il y ait une incitation fiscale à acheter les produits éco-responsables, et que c'est juste pas normal de taxer de la même manière un produit qui vient de l'autre bout de la planète, qui respecte aucune norme ni sociale ni
environnementale. Je te rejoins tellement là-dessus.
Il faut qu'on bouge, et l'État a sa responsabilité, c'est ça aussi, c'est d'activer les leviers de la fiscalité, de la réglementation, mais on peut pas mettre sur un même pied. On doit avoir de l'équité dans le traitement, et on peut pas mettre le fabricant français en concurrence frontale avec le fabricant pakistanais qui respecte pas nos normes sociales ni environnementales et qui arrive sans aucun droit de douane en Europe. C'est pas normal. Voilà. Et en plus, il y a ce sujet-là. Et puis, on est en train de réfléchir à la mise en place d'un fonds de relance économie circulaire dans notre filière qui serait capable d'accompagner tous les fabricants qui ont un projet pour transformer, relocaliser leur ligne de production pour qu'elle soit plus vertueuse, plus locale, plus durable, et également développer des projets d'économie circulaire pour qu'on produise en utilisant moins de ressources, qu'on pense davantage à la fin de vie et qu'on revoie les collections produites. C'est le gros challenge de Camif dans les prochaines années. Là, on a lancé un projet il y a 3 ans qui s'appelle Camif Édition, qui a été co-créé avec des fabricants français, des experts de l'économie circulaire, des designers, aussi des consommateurs. Là, on va être à notre troisième édition là cette année. Et l'enjeu, c'est de développer ça parce que c'est un facteur d'accélération de la transformation de notre propre filière. Voilà. Et c'est un enjeu, c'est chouette parce que c'est un projet qui mobilise en interne. En gros, on est en train de changer de métier, on est en train de passer de distributeur à éditeur, où on prend en main la conception même des produits pour qu'ils soient plus vertueux. On accélère cette transformation vers l'économie circulaire, qui est un de nos engagements au regard de notre mission. Et puis, c'est un enjeu de création de valeur sociale et environnementale, parce qu'on crée des emplois en France, parce que ça permet aussi d'avoir un mode de production plus vertueux et une valeur économique. Parce que tout ça, c'est le cœur de l'entreprise à mission, d'ailleurs. C'est que cette valeur, Et par la valeur sociale et environnementale qu'on crée une valeur économique. La valeur économique qu'on crée là avec Camif Edition, c'est que c'est des produits qu'on retrouvera pas chez Amazon, quoi. Voilà.
Non, mais c'est vraiment, c'est passionnant et c'est génial et c'est, je trouve que c'est très encourageant comme discours. Puisque finalement, tu me dis que tu es en hyper croissance, mais j'adore. Il faudrait vraiment que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd quand oui, le business positif et engagé fonctionne. Il ne faut pas juste être un gros pollueur ou importer tout ce que l'on fait pour marcher, bien au contraire. Et j'espère que justement, et en plus tu es un entrepreneur né, que ça va motiver des fibres entrepreneuriales et ou même, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir 24 ans pour vous lancer, vous pouvez mettre plus âgé, plus jeune peut-être même. Alors là, par contre, c'est audacieux, mais oui, plus jeune aussi, vous pouvez. Hein. Mais encouragez. Voilà, de nouveaux modèles comme celui de la Camif que tu as repris, Emery. Et je te remercie en fait d'être venu dans l'empreinte, d'avoir pris le temps de me raconter tout ça parce que c'est très, très inspirant.
Merci Alice.
Et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Podinstall, Bababam, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partagez ou commentez le podcast et puis mettez-nous, si vous le pouvez, 5 étoiles sur Apple, ça nous ferait gagner en visibilité. Et sachez que vous pouvez retrouver toutes les news RSE incontournables du moment dans une newsletter quasi hebdomadaire. On ne sait pas encore la fréquence pour le moment, mais on vous assure du croustillant. Bonne journée à tous.